Bonsoir, ce soir nous reparlons du SNU dans Les Amis d'Orwell. Cette semaine, on reparle donc très brièvement du SNU, le service militaire qui ne dit pas son nom, donc le service national universel. En octobre, on avait déjà consacré une émission entière avec deux membres du collectif contre le SNU de la région parisienne. Et nous annoncions à l'époque la réunion publique qui s'est déroulée dernièrement le 18 novembre à la Bourse du Travail de Paris. Alors nous y étions. Et nous avons encore appris plein de petites choses sur ce dispositif censé rapprocher la jeunesse de ses armées. Rappelons que le service militaire n'a jamais été aboli, juste suspendu en 97, et que depuis son arrivée à l'Elysée, Macron a ce grand projet en tête, rétablir l'obligation pour les 15-17 ans de se présenter sous les drapeaux. Comme la société n'est visiblement pas complètement convaincue, cela fait donc 5-6 ans qu'une petite musique se diffuse discrètement à nos oreilles pour que le service national universel devienne une sorte de norme sans que le mot obligatoire ne soit encore prononcé. L'idée, c'est donc de diffuser l'esprit de défense dès le plus jeune âge et de le présenter comme une forme noble de l'engagement. Ce soir, donc, on va diffuser quelques prises de parole qui ont été faites lors de cette réunion publique du 18 novembre. Les prises de son viennent de l'actualité des luttes, l'émission de FPP. Merci Joël. Vous entendrez d'abord un court aperçu du dispositif et de ses dernières nouveautés. Par exemple, on vient d'apprendre, il y a un décret qui vient de sortir, que les élèves de seconde qui font leur stage de cohésion SNU seront dispensés du fameux stage en entreprise, qu'on appelle pudiquement séquence d'observation au milieu professionnel. Donc on apprendra aussi que d'autres petits bonus sont prévus pour les élèves qui acceptent l'embrigadement. Et dans cette réunion du 18 novembre, le collectif a présenté un travail très intéressant, réalisé tout récemment, la cartographie des liens armée-jeunesse. Alors c'est difficile d'en parler à la radio bien sûr, mais c'est pas facile non plus de montrer cette cartographie, puisque ça se présente pour l'instant sur un panneau en bois de 3 mètres sur 3 environ, un truc énorme. On a pris quelques photos qu'on mettra sur notre site, mais c'est tellement dense comme information qu'il est difficile de tout distinguer sur la carte. Vous entendrez tout à l'heure des interventions qui vont détailler justement quelques ramifications de cet immense dispositif. Allons-y, je relâche la parole.
Citoyenneté, écologie, engagement, résilience, émancipation, égalité des chances, liberté, jeunesse, valeurs républicaines, développement durable, fraternité, unité nationale, cohésion universelle.
C'était les mots-clés d'Emmanuel Macron pour vendre le SNU.
Bonjour, alors moi j'ai pour première mission de rappeler les trois phases qui constituent le SNU. Puisqu'on pense, ce qui est mis en avant par la propagande gouvernementale, c'est le séjour de cohésion de 12 jours. Mais en fait, il y a trois périodes à réaliser en tout, si on va aller au bout du dispositif. Donc la première étape, c'est le séjour de cohésion qui dure 12 jours. Ensuite, il y a une mission d'intérêt général qui représente 84 heures. Et ces deux premières phases sont obligatoires si on veut valider le SNU. La troisième phase est facultative. Elle s'intitule « Période d'engagement ». Elle peut durer de 3 mois à 1 an. Elle concerne des jeunes de 16 à 25 ans. Alors, pour petit rappel, le séjour de cohésion, c'est 12 jours où sont présents éventuellement des enseignants pendant 3 jours maximum. Mais sinon, l'encadrement est essentiellement militaire. Ou, quand il n'y a pas de militaire, les associations d'éducation qui ont bien voulu organiser. Il y a un uniforme, il y a la levée des couleurs, il y a la Marseillaise et il y a un encadrement pour bien redresser les jeunes. On précise que les jeunes qui sont inscrits au SNU deviennent des réservistes et ça, ils n'en sont pas forcément conscients. Et le général Menaouine, qui avait conçu le dispositif, a bien précisé que ce n'est pas le séjour de cohésion qui était important, c'est le miel pour attraper, c'est le produit d'appel. Et ce qui est important, après, c'est la mission d'intérêt général. Le jeune peut s'inscrire dans une association, peut faire de l'économie sociale et solidaire. Et tout ce qui concerne l'écologie, le sport ou la solidarité sont des produits d'appel pour attirer. Mais en fait, si le jeune ne sait pas trop où aller, on va très vite lui conseiller les corps en uniforme pour faire sa mission d'intérêt général, donc tout ce qui est gendarmerie, armée et compagnie. Et si on a fait tout cela, pour l'instant c'est pas très clair, mais il est promis une valorisation sur Parcoursup, la plateforme qui oriente vers le supérieur. Ce n'est pas encore bien défini, mais on sent qu'il va y avoir un bonus ou voilà. Donc le jeune qui n'a pas fait son SNU se verra privé de ce petit bonbon. Et puis toute une série de petits bonus aussi existent pour passer le BAFA, pour passer son permis de conduire. Récemment, ils sont sortis des réductions sur le train. Voilà, plein de petits bonus qui attirent aussi. Si on ne veut pas se contenter de phase obligatoire, on fait cette troisième phase facultative entre 16 et 25 ans. Et là, c'est vraiment de préférence dans un corps en uniforme. Voilà, là, ça veut dire qu'on est vraiment lancé dans l'aspect militaire.
Moi, je vais vous parler des deux derniers dispositifs pensés par l'Éducation nationale pour attirer les jeunes faire le SNU. Parce qu'à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, le SNU était un dispositif facultatif où des jeunes s'inscrivaient ou essentiellement ne s'inscrivaient pas. Il y avait deux problèmes. Premièrement, c'est que les places n'étaient pas du tout pourvues parce que personne ne voulait faire ce truc-là. Et que 40% des volontaires étaient des fils de militaires ou de flics. Bon, c'était pas exactement le projet, et qu'il n'y avait que 2% des classes populaires, c'est-à-dire deux fois moins que dans la population française. Donc comme le SNU, a priori, ça vise plutôt les pauvres, parce que le but c'est préparer la guerre, le dispositif ne touchait pas la cible a priori. Donc la question, ça va être comment forcer les jeunes à faire ce truc, alors que c'est un peu compliqué de les forcer, parce que c'est des jeunes de 15 à 17 ans, donc c'est des jeunes mineurs, qu'on peut difficilement soustraire à l'autorité parentale, et le stage de cohésion du SNU, là où on chante la Marseillaise, c'est l'heure du matin, on rentre dans la boue, tout ça, ils dorment plus à la maison, ils sont dans des camps, là, avec des gens qui les encadrent, donc les parents pouvaient toujours bloquer. Comment forcer les jeunes à faire ce truc-là sans les forcer, parce que c'est compliqué de les forcer. Donc le premier dispositif qui a été pensé, qui date du 29 juin 2023, si mes souvenirs sont bons, c'est écrit là, c'est sur le dispositif classe engagée. Ça, c'était un coup de génie, c'était qu'au lieu de rendre les élèves volontaires, c'est que les profs soient volontaires pour rendre leurs élèves volontaires. C'est-à-dire qu'un prof peut inscrire ça ou ses classes de seconde générale et technologique ou de seconde CAP comme classe engagée. Si la classe a le label classe engagée, ça donne 1 000 euros pour l'établissement par classe. L'occasion de prendre un peu d'argent, parce qu'on est quand même très pauvre dans l'établissement scolaire. Moi, je viens du 93, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Les budgets ont été réduits pour l'année dernière de manière hyper brutale. Donc aller taper 1 000 euros à droite, 1 000 euros à gauche, ça permet d'avoir des stylos. Ça permet d'avoir des stylos essentiellement déjà. Donc tu as 1 000 euros par classe. Il y a 1250 euros pour le prof qui organise ça, le pacte, une part fonctionnelle, donc une indemnité de 1250 euros pour envoyer les enfants préparer la guerre. Et en échange, la classe de seconde va aller faire le SNU, donc le stage de cohésion de 15 jours, pendant le temps scolaire, et le prof reste chez lui. Donc c'est quand même une opération où on est payé, on a de l'argent pour l'établissement, et en plus, 15 jours de vacances. Il faut être un peu solide pour résister à ce genre de sirène. Si on ajoute à ça le bonus sur Parcoursup, qu'on ne sait pas, hein, parce que essentiellement Parcoursup, la nouveauté de Parcoursup, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc toutes les trafics sont possibles, mais on sait que l'engagement, militaire en tout cas, sera valorisé. Le problème, c'est que ce montage demande la collaboration des enseignants. Enfin, il y a quand même plein d'établissements où s'il y a un collègue qui fait ça, ça va être compliqué pour la machine à café. Et en plus, le conseil d'administration doit voter pour, il suffit de bloquer, c'est pas très très compliqué. Donc il y a quand même des failles et des possibilités de résister. Donc il y a le nouveau plan de Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui était par ailleurs le responsable du SNU précédemment, c'est une coïncidence probablement. qui a lancé la reconquête du mois de juin. En général, quand il y a reconquête dans le titre, c'est pas bon signe. Hein. Il y a eu les quartiers de reconquête républicaine, le parti reconquête. Même si on dit en espagnol, c'est pas du tout bon signe. Donc la reconquête du mois de juin, c'était essentiellement parce que le bac était en mars, donc les élèves venaient plus au mois de juin. Donc en fait, ils ont créé un trou et maintenant ils essaient de le combler. Attal l'a annoncé il y a quelques semaines ou quelques mois, mais le projet de loi est tombé hier et sera au bulletin officiel probablement jeudi prochain. C'est que tous les élèves de seconde doivent faire 2 semaines de stage en entreprise, obligatoire. Et s'ils ne trouvent pas stage en entreprise, ils doivent faire le SNU. Ce qui rend le SNU pas obligatoire, mais le stage en entreprise, lui, est obligatoire. Donc c'est une façon de rendre le SNU obligatoire. D'autant que les stages d'entreprise, on sait très bien ce que c'est. Hein. On va chez papa, maman, tonton, tata. Mais quand on n'a pas papa, maman, tonton, tata qui a la capacité d'offrir un stage d'entreprise, eh ben on va faire le bidas. Donc ce qui permet de faire un montage qui rend obligatoire pour les pauvres, les fiches de chômeurs, les gens qui n'ont pas de réseau, rend obligatoire le SNU. Ce qui est assez pratique pour le gouvernement, ceux qui vont servir de char à canon sont les bonnes personnes. Le contexte plus général du développement du SNU, parce que malgré tout, il y a une accélération délirante du SNU cette année. Le machin date de 2017, ça a barboté pendant quasiment 5 ans, avec, comme j'ai dit, des fils de bidas qui jouaient à la guerre pendant 2 semaines, c'était très sympa. Il faut voir le contexte général. La loi de progression militaire pour l'exercice 2023-2030, sur 7 ans, est de 413 milliards d'euros. 413 milliards d'euros, je ne sais pas, ça correspond à peu près au PIB de la Belgique. Voilà, 2000 milliards, c'est le PIB de la France, donc à peu près un quart de la France, dédié aux armées, sur 7 ans. Le budget pour 2023, c'est 45 milliards d'euros. L'éducation nationale, c'est 59. D'ici à 2050, il faut que le budget de l'armée, selon les prises de parole, soit entre 50 et 80 milliards d'euros. Entre 50 et 80 milliards d'euros, ça veut dire que le budget de l'armée sera très supérieur à celui de l'éducation nationale. Le seul budget qui a les moyens de lâcher un peu de thunes, qui a de l'argent, en France, c'est l'éducation nationale. On est un énorme corps, on est 1,2 million de fonctionnaires, on s'occupe de plusieurs millions d'enfants. Donc il y a beaucoup d'argent. Donc il ne fallait pas falloir payer ça. Donc on va payer ça avec le budget de l'éducation nationale.
On a constaté, et avec ce qu'on a développé là, c'est que le SNU s'infiltre partout, qu'il est assez séduisant, et parce qu'on ne voit pas forcément que c'est militaire. C'est un élève qui m'a fait la réflexion. Il ne comprenait pas pourquoi je m'opposais, parce qu'il n'a pas vu de militaire au séjour de cohésion. Mais en fait, tout se déploie lentement, et le but, c'est de rendre soit la guerre désirable, soit d'oublier que si on va à l'armée, c'est pour faire la guerre et pour porter des armes.
Eh bien, merci.
Donc, bonjour. Donc, voilà la cartographie des liens armée-jeunesse. En faisant le travail sur le SNU et en cherchant les aspects militaires du SNU, puisqu'ils essayent de gommer cet aspect, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le SNU, loin de là. D'ailleurs, vous voyez la place qu'il occupe. Et qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui unissaient donc l'armée à la jeunesse. Et il nous a semblé important de donner corps à ça et de le montrer. Donc on a choisi cette forme-là. Là où le SNU vise une classe d'âge, comme ça a été dit, les liens armée-jeunesse, ils s'implantent de l'école jusqu'à l'université, à l'intérieur des établissements, mais aussi à l'extérieur, et pour les jeunes hors parcours scolaire. C'est d'ailleurs ce qui est visé par l'armée. Ils veulent les jeunes en décrochage, ils veulent les jeunes qui ont des difficultés, ça les intéresse beaucoup. Un point sur la légende, ce que vous voyez en rose, ce sont des personnes qui ont des fonctions de lobbyistes, on peut dire, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions, par exemple, à l'éducation nationale, mais ils abusent de leurs fonctions parce que, par ailleurs, ils sont officiers de réserve, ils ont des accointances, en tout cas, ils ont à cœur de porter l'esprit de défense. Donc voilà, en orange, ce sont des structures qui ont été créées pour faire du lien armée-jeunesse, typiquement le SNU. Et puis il y a des structures donc en jaune qui sont des structures infiltrées par l'armée, mais qui à la base n'ont absolument rien à voir avec l'armée. Et en rouge, ce sont des structures ou des dispositifs qui sont purement militaires et faits par des militaires. Tout ce qui est sur la carte est en lien avec le ministère des armées. Il faut savoir qu'on n'a pas personnifier le ministère des Armées. Le ministère des Armées, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est en tenue camouflage. Hein, on s'est embêté à faire cette peinture voilà, merveilleuse. Parce qu'en fait, il y a tout ça donc, qui est en lien avec le ministère des Armées. C'est une carte V1, donc première version, parce que c'est loin d'être exhaustif. Jusqu'à hier, on trouvait encore des liens, des choses, des dispositifs. Ils en ont, mais à foison. Donc l'idée, c'est que d'autres s'emparent de cette carte et qu'on voit comment on peut la transposer, comment on peut la faire vivre et la faire évoluer.
En 1996, lorsque Jacques Chirac annonce la professionnalisation de l'armée, on est nombreuses à espérer la fin du service militaire obligatoire, mais ça n'est pas le cas. En fait, la loi de 1997 ne va faire que suspendre ce service militaire obligatoire, et la loi permet explicitement son rétablissement, soit pour des raisons militaires, soit seulement sur des objectifs assignés aux armées. En fait, la loi de 1997, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme les obligations militaires. Elle les transforme sur quelque chose qui va devenir institutionnellement une obligation qui a l'air plus ou moins d'être, on va dire, plus cool en apparence. Le parcours de citoyenneté. Le parcours de citoyenneté comporte trois aspects. Il comporte, d'une part, le recensement obligatoire en mairie, d'autre part, la journée de citoyenneté obligatoire pour tous les jeunes, et enfin, l'enseignement de défense. L'enseignement de défense, ça a l'air comme ça de mêler deux choses qui nous choquent, c'est-à-dire, en gros, l'éducation et l'armée. Je pense qu'il faut prêter une petite attention à la sémantique de cette formule. C'est bien l'enseignement de défense. C'est-à-dire que, formulé comme ça, il s'agit d'un enseignement qui est en soi une activité militaire. Du coup, comment ils vont faire pour vaincre les résistances au lien entre l'armée et la jeunesse? La première idée qui leur vient, elle est simple et brutale, comme l'armée, à savoir, on prend un recteur ou une rectrice d'académie, et avec évidemment tous ses subordonnés, ce qui fait du monde, et un général ou une générale des armées, et on leur dit « vous bossez ensemble ». Mis comme ça, c'est une version qui risque de susciter trop de réactions. Du coup, c'est là qu'ils font intervenir une nouvelle entité qui va avoir comme effet d'essayer de passer un peu plus discrètement. En fait, ils vont faire intervenir des intellectuels, ce qui est plus présentable, dans un institut, qui est plus présentable aussi, l'IHEDN. L'IHEDN, l'Institut des Hautes Études en Défense Nationale. C'est fait d'universitaires, de sommités intellectuelles, qui ont beaucoup de moyens et qui vont faire des formations et des débats auprès de plein de personnes qui sont civiles, beaucoup plus présentables. Ça passe mieux avec des civils qu'avec des uniformes, mais ça fait quand même passer les idées. Et en fait, cette IHEDN forme plein de gens qui vont donc devenir des auditeurs de l'IHEDN. Et ensuite, ils continuent de structurer. Ils font une association nationale et des associations départementales des auditeurs de l'IHEDN. Et c'est le point clé. Ce point clé, ça permet de former des gens à l'idéologie militaire, tout en étant sous la coupe à la fois d'un recteur d'académie et d'un général des armées. Et ces trois ensemble, recteur, général, association locale de l'IHEDN, forment les trinômes académiques, qui existent depuis longtemps, qui semblent relativement discrets, mais qui pourtant font une action de fond depuis très longtemps dans le but de défendre et de développer les liens armés. Ces actions, essentiellement, c'est de la formation auprès des personnels, de la formation auprès des élèves, pour que tout le monde accepte les idées de l'armée. La loi de 97 va faire passer l'éducation à la défense, c'est-à-dire plein de points sur l'éducation qui s'immisce à l'intérieur du programme. Et puis, On va avoir, par exemple, les classes de défense et sécurité globale, où, pour donner un exemple, un prof de français qui se dit « mais qu'est-ce que je vais avoir à faire avec ça ?» Ben, il va faire une correspondance épistolaire entre ses élèves de collège ou de lycée et une armée en action. Et autre chose de ce genre-là, les cadets de la défense, qui vont, par exemple, eux, être des partenariats entre plusieurs collèges et lycées d'un même secteur géographique, et qui vont amener des élèves de ces établissements à aller directement dans des unités militaires en manipulant des armes.
Moi, je vais vous parler de ce qu'on a appelé mieux connaître la jeunesse. C'est un peu l'obsession de l'armée. Mieux connaître la jeunesse, ça permet de mieux l'infiltrer et d'être au diapason pour aller au bon endroit, au bon moment. Donc, ça, c'est une quête qu'ils ont depuis très longtemps. Ils ont créé ce qu'on appelle la Commission Armée Jeunesse. Ils vont s'inspirer de structures qui connaissent la jeunesse, puisque la Commission Armée Jeunesse est composée de 101 structures. Elle existe depuis 1955. Il y a 38 associations et mouvements de jeunesse, 8 mouvements étudiants, 11 syndicats, donc ça laisse assez perplexe. Les noms sont là, on a la liste. C'est assez intéressant et assez édifiant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des groupes de travail tous les mois qui se réunissent. C'est le ministère de l'Armée qui pilote tout ça, puisque la Commission Armée Jeunesse dépend complètement du ministère des Armées. Et donc, ces gens-là, dont des associations très connues, même dans l'éducation populaire, vont travailler sur des groupes de travail, inspirer l'armée pour leur dire « bah voilà, voilà ce qu'aiment bien les jeunes, voilà ce qu'on pourrait faire ». Et ils font des préconisations, et en échange, l'armée leur permet d'aller visiter des sites militaires, de faire des conférences sur l'armée, etc. Donc ça, c'est chaque mois. Et par exemple, il y a un groupe de travail a rendu un rapport là en 2022-2023 qui est « Quelle est la perception de l'engagement militaire chez les jeunes éloignés des enjeux de la défense ? Comment intéresser ces jeunes au sujet de la défense, voire à un engagement dans la défense ?» Et donc, de là, ils ont eu la bonne idée de dire « Bah tiens, il y a le SNU, il y a les réseaux sociaux, il y a les commémorations. » Donc le 11 novembre, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément de jeunes qui ont participé. Ce n'est pas un hasard. C'est un travail de l'armée qui s'est immiscé dans plein de choses pour que ces jeunes fassent ces visites mémorielles et ces commémorations. Pour mieux connaître les jeunes, il faut savoir que le général Menaouine, qui est le premier rapporteur du SNU, avait également lancé une enquête via la JDC, où 45 000 jeunes ont répondu, et via les lycées, à l'intérieur des lycées, le général Menaouine a fait une enquête aussi pour les connaître, donc 30 000 jeunes ont répondu à cette enquête. Là, je vais vous parler d'un autre exemple, c'est ce qu'on appelle l'ECPAD, Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense. Ils ont 15 millions de photos, ils ont des centaines de films, ils ont un fonds d'archives assez extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une enseignante détachée de l'éducation nationale qui pompe des projets pédagogiques à l'intérieur de ce truc qui est purement militaire. Cette ECPAD, donc, a par exemple, dernièrement, il y a un prof d'histoire qui s'est dit « moi j'habite dans une ville, tout ça, il y a eu la guerre, je vais faire un truc ». Donc il trouve des photos super sur un militaire, tout ça, bon bref. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a pris dans ce fond-là. Et qu'est-ce qu'a fait le CPAD derrière? Ils l'ont invité à des séminaires de l'armée, ils ont fait tout un tas de choses. Et un jour, il s'est retrouvé à un séminaire, il a bien compris qu'il y avait beaucoup d'uniformes pour faire ce projet. Et là, il s'est rendu compte, et d'ailleurs il le dit lui-même, qu'il était pris dans un truc qu'il n'avait même pas imaginé. Et donc il y a beaucoup d'enseignants qui risquent de se retrouver dans des projets comme ça, qui sont en fait faits par des militaires pour toujours infuser l'esprit de défense et travailler là-dessus. Donc ils sont très forts pour ça. Un autre exemple, c'est le prix éco-délégué. Donc il faut savoir que l'écologie, ils ont compris que c'était un grand intérêt pour la jeunesse. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prix éco-délégué, comme ça, ça ne mange pas de pain, on ne voit pas le rapport avec les militaires. Le prix éco-délégué, il s'avère que Coralie Noël, elle est haute fonctionnaire à l'éducation nationale, à l'écologie et à la transition. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, mais moi, en fait, j'adore l'armée. Et d'ailleurs, j'ai fait la formation à l'IHEDN et j'adore l'esprit de défense. Oh, je fais de l'écologie et de la transition, ça intéresse les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans son prix éco-délégué, elle a rajouté une petite phrase dans les règlements de l'année dernière. Elle a dit, tous les établissements relevant de la défense peuvent candidater aussi sur ce prix. Et donc, c'est une façon, en abusant de sa place, d'infuser l'esprit de défense là où elle peut. Et ça, c'est pas visible. C'est-à-dire que c'est des choses, si on va pas scruter dans le règlement, on ne le voit pas. L'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, donc c'est des professeurs de PS, organise notamment le cross départemental qui a lieu là d'ailleurs dans pas longtemps. Plusieurs départements font des alliances avec des bases militaires. Donc ça se passe sur des bases militaires, c'est encadré par moment par des militaires et c'est souvent aussi à l'invitation de colonels et de généraux. Donc ça s'est fait dans plusieurs départements, donc il faut être attentif à ça. Et une dernière chose qui est peu connue, c'est la part collective du pass culture. Le pass culture, on connaît la part individuelle, donc les jeunes qui ont une somme et tout. Il y a la part collective. La part collective, c'est quoi? C'est chaque établissement a une somme allouée pour, par jeune. Donc c'est en 20 à 30 euros selon le niveau de classe. Il s'avère que la part collective a été étendue au 6e et 5e pour cette année. L'armée compte sur cette part collective pour organiser des visites mémorielles et des choses sur des bases militaires. Elle l'a déjà fait, elle sait que ça existe. Et en fait, il faut savoir que la DGESCO sait très bien aussi que l'armée se sert de ce dispositif pour payer des sorties et des visites. Donc voilà, et ça c'est typiquement des choses qui ne sont pas prévues pour, mais il faut savoir que c'est accordé pas par imposition des mains, c'est qu'il y a un article dans la part collective du pass culture qui dit que les lieux mémoriels et les lieux de défense sont éligibles à la part collective du pass culture. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font et que c'est des choses détournées parce qu'il y a ces personnes qui sont souvent des officiers de réserve par ailleurs qui en profitent pour mettre là où ils peuvent de la défense et du militaire.
Donc, pour les enseignants et enseignantes présents dans la salle, il faut absolument inscrire les classes à des pièces de théâtre qui n'ont rien à voir avec l'armée pour vider la part collective du pass culture et ne plus financer les événements mémoriels. Petit conseil. Moi, je fais un point sur la formation des enseignantes. L'idée, c'est d'infuser sur le long terme. Et ce qui a été constaté par des spécialistes d'éducation, c'est que le public enseignant est particulièrement rétif à l'introduction de l'idée de défense dans les enseignements et dans l'école. Donc il faut prendre le temps et il faut infuser par plusieurs biais. Alors je vais pas m'attarder, mais présenter quand même Sébastien Jakubowski, qui est le recteur de l'Académie de Lille et qui est un peu une star de conférence pour présenter les façons d'intégrer la défense dans nos enseignements. Je suis enseignante. Et le DGESCO Édouard Geffray, donc DGESCO c'est le bras droit du ministre, hein, le directeur général à l'enseignement scolaire, il a intégré dans le schéma directeur de la formation des enseignants la notion d'éducation à la défense. Donc dans ce schéma directeur, il y a plusieurs en-têtes importantes, comme les valeurs de la République, la laïcité bien sûr, liberté des droits fondamentaux et égalité des droits, et s'ajoute à cela, au même niveau, l'éducation à la défense. Dans l'INSPE, hein, l'Institut National des Formations des Professeurs, où œuvre particulièrement donc, le Sébastien Jakubowski, il est dit que la formation à l'enseignement de la défense doit être intégrée dès la formation initiale. Et on peut venir à EducaDef, avec un joli petit arrobase. C'est un site numérique où sont collectées toute une quantité de ressources très bien faites, très accessibles. Donc c'est à la fois pour les enseignants qui vont trouver du matériel pour parler de la défense, mais c'est aussi pour le grand public. Et c'est accessible, c'est joli, c'est sympa, tout est sympa, donc ça donne envie de faire.
Ce soir on engage au SNU, aujourd'hui mon maître c'est l'État. Le papier est blanc et l'uniforme est bleu et je vois rouge, mais je n'ai pas le choix. Ce soir on m'engage au SNU, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple jeune campe plus qu'encore une fois, on me laisse pas le choix. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, qu'il soit maudit ce SNU. Maudit drapeau, maudite Marseillaise apparemment, on veut que je me taise. J'aimerais tant comprendre l'histoire de cette loi, des gens qui ont porté ça. Décider pour moi, faut croire que ça les jette pas, pourtant jeune ils l'ont été avant moi. Je voudrais pouvoir leur dire que la jeunesse des valeurs elle en a. Elle se bouge, elle gueule, on va pas se mentir, la vérité c'est que vous l'écoutez pas.
Ce soir dans Les Amis d'Orwell, on revient donc sur le service national universel avec des interventions captées le 18 novembre à Paris lors d'une réunion publique organisée par le collectif non au SNU de la région parisienne. À présent, pour finir, quatre derniers intervenants et intervenantes. D'abord, une lycéenne qui nous parle de ce qu'elle a vu, entendu et subi dans toute cette propagande. Et ensuite, le témoignage de membres d'associations d'éducation populaire sur lesquels compte absolument le gouvernement pour imposer le SNU sur le terrain. Il y aura à la fin, vous l'entendrez, le témoignage d'un encadrant tuteur de maisonnée, comme on l'appelle dans ces nouvelles casernes.
Au profit des gens qui gouvernent l'État et qui veulent les mettre au pas.
Donc, bonjour. Alors déjà, on est très contents de pouvoir être ici pour discuter justement de notre vision qu'on a du SNU. Tout ce processus qui est vraiment partout, soit dans les discours des proviseurs, dans les mots qu'on va nous faire passer. Il y a tellement de mots qui sont utilisés pour parler du SNU, qui sont des mots qui sont connotés très positivement, que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, en fait, de déconstruire cette vision du SNU quand on nous parle d'engagement, qu'on va parler de plein de choses, d'égalité, d'écologie. Tout le monde s'en est rendu compte ici. Enfin, le SNU, c'est pas de l'engagement, c'est plutôt de l'embrigadement. Et en fait, vouloir apprendre aux élèves à obéir aux ordres, à savoir être bien discipliné, c'est quelque chose que veut transmettre le SNU aux jeunes, mais c'est aussi quelque chose qu'on voit même dans ce qui est de plus en plus voulu par l'éducation nationale dans la manière dont on va être traité, que ce soit dans les programmes, dans les enseignements, et en fait dans l'institution scolaire, ce qui va vraiment être prôné, c'est le respect de l'ordre, le respect de l'autorité. Attention aux élèves qui voudraient sortir du rang, qui seraient indisciplinés, qui voudraient remettre en question les réformes qui passent d'année en année, qui précarisent toujours de plus en plus nos filières, nos conditions d'études, et même tous ceux qui voudraient en fait remettre en question de manière générale le fonctionnement de l'institution scolaire. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est, de manière générale, mise en avant par l'institution, qui veut vraiment par tous les moyens faire respecter aux élèves l'ordre, la discipline. Et donc c'est ça aussi qu'on a vu l'année dernière, au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites, mais aussi contre la réforme du lycée professionnel, où en fait les lycéennes et les lycéens qui s'engageaient étaient en permanence intimidés, il y avait des discours très paternalistes, et puis aussi bien évidemment matraqués, fichés par les établissements. Et c'est vrai que c'est très ironique de voir que de l'autre côté ils utilisent et ils récupèrent toute une sémantique très positive de l'engagement pour mettre en place leur séjour SNU, donc embrigadement, respect de l'armée, de l'autorité, de ce que même disent les gens qui les ont vécus. C'est pas vraiment apprendre à connaître l'autre, c'est plutôt faire des punitions collectives avec les autres, c'est plutôt respecter l'autorité, comprendre à quel point l'armée est extrêmement importante, attention surtout beaucoup chanter la Marseillaise et avoir un respect très très profond pour le drapeau français. Je ne sais pas si c'est forcément cohérent avec ce qui était à la base prôné dans les mots qu'ils utilisaient à la base. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler vraiment d'engagement quand c'est utiliser les élèves pour faire passer leur propagande militaire. La précarité qu'eux-mêmes mettent en place dans leur politique libérale, ils la récupèrent pour faire du chantage aux jeunes et les forcer à faire le SNU. Donc, par exemple, ils vont proposer aux personnes qui vont faire le SNU d'avoir des trains gratuits pendant un mois. C'est vrai que casser la filière professionnelle, nous mettre en compétition, pas nous mettre de place dans le supérieur, avoir des conditions d'études très très compliquées, c'est pas du tout ça qu'il faut pallier. Et justement, on va plutôt utiliser le fait que les lycéennes et les lycéens sont précaires et vivent dans des conditions difficiles pour leur dire, attendez, on va vous donner une petite miette de gâteau si vous acceptez de faire 2 semaines où vous allez apprendre à respecter l'ordre, la discipline. Il n'y a pas assez de place dans le supérieur, mais potentiellement, si tu fais ton SNU, on ne sait pas, peut-être que tu auras un petit peu plus de chance d'avoir une place dans la filière que tu veux. C'est vraiment, tout est dans la surface, tout dans le superficiel. C'est sur une journée défense, citoyenneté, enfin je ne sais plus trop le terme, mais on me racontait en fait qu'il y avait c'était les militaires qui faisaient la formation, et ils étaient un peu en train de découvrir le PowerPoint en même temps en fait que les jeunes qui étaient là. Et je crois qu'à un moment sur le PowerPoint, il y avait des trucs sur égalité homme-femme et tout, et ils ont vraiment dû faire genre de blagues. Oui bon, enfin ça, on vous le montre, mais bon, je veux dire, c'est parce qu'on doit le montrer, hein. C'est pas trop comme ça à l'armée. Et on peut se dire, c'est un militaire, et puis l'autre a rigolé, il a dit, bon, c'est vrai que... bon voilà, c'est ça, c'est pas trop nous, mais donc on voit bien que voilà, c'était pas forcément eux ce pourquoi ils étaient là. Mais en tout cas, c'est vrai que de manière générale, quand on voit la manière dont ils nous empêchent, nous, dès qu'on va organiser une AG, un blocus, qu'on va essayer en fait de montrer notre opposition à l'institution scolaire ou aux réformes libérales qu'ils essayent de passer, voilà, ils vont nous ficher, mettre des conseils de discipline plusieurs mois après pour les élèves qui se sont engagés, qui se sont mobilisés. Mais voilà, ils vont réutiliser l'engagement pour dire non, on veut absolument que les élèves s'engagent. On va y mettre aussi en place plein de petits conseils lycéens pour dire que les élèves sont vraiment acteurs des décisions qui les concernent. Alors que vraiment dans ces conseils-là, il y a 3 lycéennes-lycéens qui vont donner une petite idée et de l'autre côté, il y a l'institution qui va faire « Ah d'accord, c'est vraiment super, c'est pas ce qu'on va faire, mais vraiment merci d'être là pour qu'on puisse légitimer le fait qu'on vous demande en fait jamais votre avis. » Je suis pas sûre qu'on ait trop envie d'être des jeunes lycéens très disciplinés qui respectent l'ordre et qui jamais se mettent en opposition avec ce qu'ils entendent.
Bonjour à toutes et à tous. Donc nous, on va vous parler du SNU dans nos secteurs respectifs. Pour moi, ça sera l'associatif. Alors tout d'abord, il faut bien réexpliquer que les associations sont censées être indépendantes, mais comme elles vivent majoritairement grâce à des subventions publiques, elles ne le sont pas forcément. Et ce qu'a fait Macron depuis sa première élection, c'est de diminuer les subventions aux associations et de passer de subventions de fonctionnement à des subventions projet, appel à projet annuel. Donc ça précarise énormément les associations, et les associations qui osent dire publiquement qu'elles ne sont pas d'accord avec ce que fait le gouvernement savent qu'elles s'exposent à la perte ou à la diminution de leurs subventions. En parallèle de la baisse des fonds pour les subventions aux associations, on voit que l'État était capable de débloquer 3 milliards d'euros pour le SNU. Les associations d'éducation populaire, au lieu de s'organiser collectivement et de dire non à la mise en place du SNU, il y a eu du dumping entre les assos pour devenir prestataire de l'État et proposer soit l'allocation de leurs infrastructures, soit l'encadrement de sessions de SNU, soit la mise à disposition d'animateurs.
Et il y a aussi la promotion du dispositif et un peu le changement de paradigme avec les associations d'éducation populaire qui commencent à faire de la pub pour l'État, pour le ministère de la Défense. Moi, par exemple, je travaille à la Ligue de l'Enseignement et du coup, j'ai l'honneur d'être dans une asso qui est et à la Commission Armée Jeunesse et qui fait la promotion en interne de l'IHEDN qui ont été présentés tout à l'heure pour former les cadres de direction. Et donc, petit à petit, on voit que dans les projets que nos collègues mettent en place dans les territoires, il y a des projets sur les commémorations, l'armée, et c'est des projets avec le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Défense, avec Dassault, avec Safran. Ça s'étend à plein d'autres associations et ça ne pose plus trop de questions. Voilà, ça ne choque plus, ça ne scandalise plus. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Baptiste, qui a été encadrant pour le SNU et qui va témoigner du coup des conditions de travail.
Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant deux semaines, on m'a vouvoyé, on m'a appelé monsieur parce que du coup, j'ai été encadrant d'un service national universel. Et le point que j'aimerais qu'on retienne, c'est que structurellement, le SNU est facilitateur de violence à l'égard des jeunes qui y participent, notamment à cause des conditions de travail des encadrants et des encadrantes. J'étais donc tuteur de maisonnée, ça s'appelle comme ça. On a une douzaine de jeunes de 16 ans sous notre coupe. Et pendant 12 jours, avec un séjour de 200 personnes, oui, le rythme de vie est extrêmement fatigant et cette fatigue est facilitatrice de violence. Notamment, c'est des journées de 6h30 à 22h30 pour les jeunes. Mais quand on est animateur ou animatrice, ça veut dire qu'après, on a des réunions d'équipe. Et ça veut dire que si on doit lever les jeunes, par exemple, à 7h, on doit se lever un quart d'heure, une demi-heure avant. Et donc, oui, le rythme de vie épuisant des services nationaux universels facilite les violences. Notamment, on a 50% des jeunes qui estiment que l'emploi du temps est trop chargé. On en a 51% qui estiment qu'ils n'ont pas assez de pauses au sein du SNU. Et donc, jeunes fatigués plus encadrants fatigués, oui, ça facilite les violences. Et c'est de là qu'on peut voir qu'à Strasbourg, il y a des punitions collectives, que dans le Nord, ils font faire des pompes, ou que partout ailleurs, il y a des violences sur les jeunes, notamment à cause de cette fatigue. En plus d'un cadre fatigant, on a des encadrants et des encadrantes qui ne sont pas ou peu formés. C'est-à-dire, en colonie de vacances, on peut avoir jusqu'à 20% d'encadrants non formés. Eh bien, le cadre légal du SNU est modifié, ce qui fait qu'au SNU, on peut avoir jusqu'à 40% d'encadrants et d'encadrantes pas formés. Le tout fait un cocktail un peu explosif qui facilite les violences sur les jeunes. En plus de ça, on a des collègues militaires à nos côtés dont ce n'est pas le métier d'encadrer des séjours de 12 jours. Et tout cela fait un cocktail explosif. Et ce que vraiment je voudrais que vous reteniez, c'est que le tout est structurellement facilitateur de violences aux mineurs. On peut le voir de l'intérieur, on peut le voir avec les chiffres. Et donc pour ça, jusqu'au bout, on se battra contre le SNU.
Je travaille au sein des services de l'État qui mettent en place le SNU. Donc c'est la charge du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a été aspirée il y a peu par le ministère de l'Éducation nationale. Et pour compléter ce qui a été dit, moi je pensais à deux points. C'est le premier point, ça sera le fait que le SNU devienne en fait l'alpha et l'oméga des politiques jeunesse en France. Et le deuxième point, c'est la culture du secret qui est organisée, et notamment jusque dans les sphères de l'État. Le SNU, en plus d'être de l'argent monumental, c'est aussi en fait des objectifs monumentaux qui pèsent en fait à tous les niveaux, et notamment sur les équipes et les agents et fonctionnaires qui doivent mettre en place ce dispositif. On est sur un engagement qui est obligatoire. Donc c'est totalement contraire à ce que doit être l'engagement, qui est un engagement libre normalement. Et donc ça a un impact sur tout ce que sont les politiques de jeunesse et tous les autres dispositifs qui existent. Concrètement, l'État dit à des assos, bah, si vous ne mettez pas en place le SNU, bah, les subventions elles vont sauter ou alors elles vont diminuer. Ça c'est concret et c'est régulier. Les agents, en fait, la pression elle est telle que... Normalement, à la base, il y avait trois personnes qui travaillaient sur le SNU et après, on demande à tout le monde de travailler sur le SNU. Donc, ça pressurise tout le monde. On a des agents qui sont en souffrance, on a des agents qui sont en arrêt maladie, etc. etc. Donc, on a en fait un SNU qui prend toute la place, et au niveau de l'argent et au niveau des équipes et au niveau de l'impact que ça a avec les assos, avec les partenaires. Et on a des personnels et des fonctionnaires qui n'ont plus le temps de développer leur autre mission, et notamment des choses qui sont très importantes et de ce qu'on appelle les missions régaliennes, notamment l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des accueils collectifs de mineurs. Donc tout ce qui est centre de loisirs, colo, c'est fait au détriment en fait de la sécurité de beaucoup de personnes et notamment de mineurs, parce qu'on a le spectre du SNU qui prend toute la place. Voilà, et l'autre point dont je voulais vous parler, c'est cette culture du secret, parce que concrètement, on demande à toutes les personnes qui travaillent sur le SNU, et notamment les fonctionnaires et les fonctionnaires d'État, qui normalement doivent être neutres, on leur demande de fermer leur gueule. Excusez-moi d'être vulgaire, mais en fait, on leur demande de se censurer et de ne pas remonter les dysfonctionnements, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, ça a été dit, il y a beaucoup de violences, on sait que notamment il y a eu des violences sexistes et sexuelles, il y a eu des propos discriminants, notamment racistes, homophobes, etc., etc. Et en fait, on empêche la remontée de ces informations. On demande aux équipes, notamment en charge du SNU, de ne pas parler à la presse. Et on demande à tous les retours d'expérience, en fait, quand il y a des choses qui sont un peu trop violentes, qui sont écrites, bah, elles sont barrées, elles sont supprimées dans les infos qui remontent. Donc c'est très contradictoire. Et en plus, le SNU, il faut savoir que c'est des séjours qui sont organisés par l'État et en même temps contrôlés par l'État. Donc il y a un problème. C'est pas comme tous les autres séjours qui existent. Donc vous voyez bien que la remontée des problèmes est déjà contradictoire. Dans les hautes sphères de l'État, ils sont au courant, puisque ça nous arrive d'aller rencontrer les ministres et notamment la secrétaire d'État. On lui a fait l'état notamment du fait qu'on était muselés, censurés à tous les niveaux, au niveau associatif, au niveau des acteurs et des professionnels, mais au niveau des fonctionnaires. Et en face, la réponse, elle est nulle, quoi. Elle est un peu montée sur ses grands chevaux. Elle nous a dit « Ah bon ?» Enfin, elle a fait son numéro. C'était nul. Et elle nous a dit « Ah, mais moi, je veux avoir les noms des gens, etc. » Et quand on lui dit « Non, mais on ne peut pas le faire, parce que vous demandez à vos fonctionnaires de ne pas parler. » Et après, ils savent, mais ils s'en foutent. Voilà. Donc, tout est organisé pour que le SNU puisse continuer à être un système totalement autoritaire et violent et délétère.
Et du coup, pour conclure, nous, on se bat dans nos collectifs de travail, en plus de ce collectif, mais aussi beaucoup via nos syndicats. C'est le fait d'avoir des mandats syndicaux qui nous permettent de pouvoir s'exprimer librement dans nos assos, dans les ministères, pour les collègues profs, dans leurs écoles. Donc déjà, merci là à tous les camarades du MNL, de la CNT, de la CGT et pour nous de Solidaires. Et c'est très important pour nous que vous, en tant que parents d'élèves, en tant que citoyens, en tant qu'adhérents d'associations ou membres de conseils d'administration d'associations, vous fassiez aussi passer le message que vous êtes contre le SNU. Parce que ça nous permet, nous, d'avoir plus de crédibilité quand on essaye de dire à nos associations employeuses qu'on n'est pas les seuls à avoir cette parole-là, que peut-être que leurs adhérents aussi. Donc c'est important que vous puissiez aussi transmettre cette parole-là. Merci.
Voilà pour ces courtes nouvelles du front. Cette réunion a donc eu lieu le 18 novembre à la Bourse de Travail de Paris. Le collectif contre le SNU de la région parisienne organise des points d'info et des réunions régulièrement. Contactez-le pour en savoir plus. Leur mail, c'est collectif-non-snu-rp@mailo.com, mailo.com. Pour info, jusqu'à dimanche prochain, là, 3 décembre, à la librairie Publico, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a une expo d'affiches antimilitaristes organisée et rassemblée par l'Union Pacifiste. C'est donc jusqu'au dimanche 3 décembre à Publico. Merci à l'équipe de l'Actu des Luttes. Merci à Henrik pour le coup de main. Nos archives sont toujours sur sourier.info. Bonne fin de soirée sur Radio Libertaire.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.